Alors que le gouvernement reste inflexible face à l'opinion publique qui rejette massivement la nouvelle réforme des retraites, force est de constater qu'il se passe quelque chose d'historique en France par le nombre de manifestants mobilisés et une union intersyndicale pas vue depuis fort longtemps. Si les politiques proches de la Macronie sont prêts à suivre la chef du gouvernement dans cette réforme, d'autres, comme à la NUP, ont décidé de se ranger du côté du peuple. C'est ainsi qu'Antenne Doc a invité la France Insoumise à venir s'exprimer sur nos ondes. Nous avons reçu Elsa Boujard et Samuel Martin en direct dans nos studios cadurciens quelques heures avant la mobilisation du 31 janvier. Nous vous proposons de réentendre ce que nous nous sommes dit ce jour-là. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cette réforme des retraites qui est hyper contestée quand même par le peuple, hein, visiblement. Il y a une grande majorité des Français qui n'en veut pas. Cette réforme, elle se passe, on va dire, de manière un petit peu dure dans la manière dont ils veulent la passer. Hein. On est un peu loin d'une belle idée de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la manière dont le gouvernement s'y prend pour cette réforme ? Samuel ?
Oui. Moi, je pense qu'il faut parler. Il y a deux choses. Il y a les chiffres et puis il y a la manière. Mais dans la manière, on se rend compte quand même que dans la rue, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a jamais eu autant de monde depuis que je suis né, en fait, dans la rue. Mm-hmm. Là, j'ai 27 ans, c'était 95, si j'ai bien compris qu'il y a eu autant de monde dans la rue. Donc je me dis, bon, à partir du moment où il y a autant de gens qui sont contre cette réforme, déjà, je me dis, d'habitude, je pense que les gens sont aussi contre les réformes, mais pas forcément intéressés. Ils n'ont pas le temps, Mais là, c'est la première fois qu'il y a autant de gens dans la rue, quoi, qui est d'accord, il a réussi à solidariser tout le monde contre lui, Macron. Donc, je me dis, à partir de ce moment-là, déjà, il y a un souci si l'écrasante majorité des gens est contre, qu'il ne la fasse pas, sa réforme. Même si moi, d'habitude, il y a beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres réformes pour lesquelles je suis contre. Mais celle-là, ça a le mérite de faire que la majorité des gens est contre. Et puis après, nous, c'est par rapport au contenu, quoi. Bon. Je sais pas si on peut rappeler en gros, mais nous, à la France Insoumise, on est pour la retraite à 60 ans ou c'est pour l'augmenter. C'est simple, hein, ça. Après, faudra parler peut-être de chiffres, etc. Mais nous, on est pour que le temps de travail soit réduit dans la semaine, dans la journée, dans la vie, qu'on ait le temps de vivre correctement. Et puis quand dans la réforme, eux, ils nous parlent de... ils nous parlent des... comment dire, quand on supprime les... C'est ça, les régimes spéciaux. Moi, je connais des gens qui travaillent dans des secteurs où voilà, les conditions sont difficiles et puis qu'eux suppriment ça. Toutes les clauses de pénibilité au travail. Et y compris, moi, je suis enseignant aussi. C'est fatigant aussi, même si j'aime bien mon boulot. Je me dis que 64 ans, c'est dur. Plein de collègues, je pense la même chose, malgré le fait qu'on aime profondément notre boulot. Et puis dans le secteur privé, on est comme dans l'autre où il y a beaucoup de métiers. Il y a aussi des métiers dans l'artisanat, etc. Porter des charges lourdes, c'est fatigant. Faut que ce soit reconnu et non pas supprimé. Et donc nous, ça, c'est des choses où on n'est pas d'accord. Et je pense que la majorité des gens, c'est le cas aussi. Donc on va se battre contre. Et puis d'autant plus que le gouvernement, à côté de ça, fait plein de cadeaux fiscaux aux très grandes entreprises, aux très riches. Là, il y a eu la CVAE. Il n'y a pas longtemps, pour nous, en fait, c'est pas normal de supprimer ça. Au contraire, il faudrait investir dans le système de retraite d'une manière ou d'une autre. Et puis, moi, je pense à tout ce qui s'est déjà fait dans le passé, mais le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, que c'était 20 milliards par an pour des très grandes entreprises. On se rend compte qu'au final, c'était censé financer soit des hausses de salaire, soit des investissements dans les machines, etc., ou réduction du temps de travail. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors, c'est que 3 milliards par an. N'empêche que symboliquement, ils suppriment. Et puis, pendant ce temps, la majorité des gens vont souffrir de cette réforme. Et on va penser à tous ceux qu'on défend, nous, à la France Insoumise, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, tous les artisans qui charbonnent quand même pas mal d'heures par semaine avec des boulots physiques. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça, quoi.
Alors, en plus, aujourd'hui, il y a quand même un deuxième fait d'actualité. C'est quand tu me parles des conditions de travail pénibles dans certains secteurs, de cette situation des retraites, donc qui le gouvernement voudrait voir changer. On a la réforme en plus du chômage aussi qui tombe aujourd'hui même, qui plus est, qui vient s'additionner à tout ça, qui vient précariser encore plus les futurs retraités avec ce calcul qu'ils sont en train de nous proposer.
On est de toute façon face à un gouvernement qui a été élu, mais qui est quand même sorti des élections législatives sans majorité. Mmh. Il semble l'oublier, d'où les passages en force. Hein. C'est quand même déjà 10, 49, 3 depuis le début du mandat.
Ça a déjà existé, ça ?
Je crois pas.
Moi
je
non
crois
plus.
Pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais existé qu'en France, me semble-t-il, peut-être une fois, qu'un gouvernement n'ait pas voté la confiance du Parlement. Donc ils en sont réduits là, en fait. Et face à la réforme des retraites, c'est d'une brutalité inouïe. Rajouter l'assurance chômage, c'est encore d'une brutalité inouïe. Et sur la réforme des retraites, c'est quand même 93% des actifs qui s'opposent au recul de l'âge de la retraite. Si on prend la moyenne de la population, c'est 3 Français sur 4.
Oui, c'est 63% en moyenne qui sont contre sur l'ensemble des Français.
Voilà, alors le plus bateau étant chez les retraités, qui se disent peut-être « ouf, on a passé la barre », et bien qu'on les voit nombreux en manifestation soutenir les actifs. Et en tout cas, leurs réformes ne sont pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas la base sociale, en fait, pour passer cette réforme-là, qui n'est pas justifiée, en plus, comme le disait Samuel. Les caisses ne sont pas vides. C'est même le conseil d'orientation des retraites qui le dit. C'est quand même pas un appareil spécialement rouge, quoi. Enfin, on n'est pas à la tête de ça. Et ils disent que dans la plupart des hypothèses, à terme, les dépenses sont compensées et voire vont réduire en termes de retraite. Et donc, face à ça, ça s'annonce encore plus de la brutalité. Sur l'assurance chômage, le principe, c'est de toute façon, on tape sur les petits et on fait les cadeaux aux riches. Enfin, il n'y a rien qui continue dans le gouvernement Macron. Et le fait qu'il n'ait pas de majorité, ça ne change rien pour eux. Ils gardent le cap. Et après, ils ont le RN qui est bien silencieux face à tout ça. Parce que, on ne veut pas le recul de l'âge de la retraite. En commission des finances présidée par Éric Coquerel, qui est insoumis, ils ont quand même voté contre la retraite à 60 ans. Sur l'assurance chômage, on ne les a pas entendus beaucoup... Beaucoup s'écrier, à part pour avoir des propos racistes dont on est habitué. Donc en fait, ils ont quelques silencieux utiles qui est la droite, quelques idiots utiles qui est le RN, et ils pensent passer en force vis-à-vis de ça. Mais là, on voit que la mobilisation est quand même particulièrement forte dans une période
où socialement,
c'est quand même compliqué pour les gens de faire grève et de se mobiliser. Et malgré ça, la mobilisation est là. Parce qu'à un moment donné, on a eu les gilets jaunes, et puis à un moment donné, les gens, ils en ont marre de se faire tondre. Juste pour pouvoir donner plus de cadeaux aux riches, c'est injuste.
Alors, on saisit bien la réforme des retraites que le gouvernement veut nous imposer. Mais alors, la France Insoumise aussi avait des propositions qui ont été rejetées. Alors, il y a la retraite à 60 ans. Parmi aussi les propositions qui sont portées par la France Insoumise, il y en a une quand même que je trouve importante à rappeler. C'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui à elle-même, déjà à elle seule, permettrait de bien faire gonfler les caisses de la retraite. C'est ça ?
Oui, mais tout à fait. Alors ça, c'est une injustice qui date de longtemps et pour lesquelles les gouvernements ont mis des choses incitatives et n'ont pas été beaucoup au-delà. Effectivement, si aujourd'hui on rémunère les femmes au même niveau que les hommes, on finance les retraites. Voilà, parce qu'on fait rentrer plus de cotisations sociales. Et c'est aussi permettre aux femmes de ne plus subir les temps partiels, ce qui est souvent le cas, de ne plus être majoritairement dans des métiers peu qualifiés parce qu'il n'y a plus que ces boulots-là pour elle, ou d'être contrainte de rester à la maison, parce qu'entre le salaire du conjoint ou le salaire de la femme, on garde le salaire du conjoint qui est plus élevé. Donc c'est une mesure de justice sociale, c'est une mesure de progrès, d'égalité homme-femme, et qui en plus résout le problème des retraites, et qui nous est un élément pour financer la retraite à 60 ans, avec 40 annuités, et avec des pensions minimales pour une carrière complète, qui sont au SMIC, mais notre SMIC, pas le SMIC actuel, donc 1 600 € par net, et qui permettent aussi de revaloriser le minimum vieillesse, qui est aujourd'hui complètement indécent, pour le revaloriser au seuil de pauvreté, en fait. Donc il y a différents leviers, entre les cadeaux aux riches, qu'on a dit, Samuel parlait des exonérations sociales qui sont faites, et l'égalité salariale, on peut tout à fait financer une réforme qui, pour le coup, est juste, parce qu'elle touche, elle permet aux plus précaires de profiter de la retraite, simplement, d'avoir...
En bonne santé.
C'est ça, en bonne santé. Voilà, non, mais je discutais avec une collègue qui me disait, maintenant, on va faire notre cancer avant d'être à la retraite, quoi. Enfin, concrètement, c'est ça. La base de la retraite, c'est de permettre aux personnes âgées de sortir de la pauvreté et de pouvoir profiter un peu de sa fin de vie sans être en train de mourir de faim, quoi. Concrètement, c'est ça. Et là, on est en train de faire un retour en arrière. Déjà, les précédentes réformes, parce qu'on s'insurge contre celle de Macron, mais il y a déjà eu celle de Marisol Touraine, quand même, que l'on voit à François Hollande, qui a eu pour impact le recul de 2 ans de départ à la retraite, de faire diminuer au moins de 10%, je crois, les pensions, et de faire reculer l'espérance de vie en bonne santé, en France. Aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes parmi les plus pauvres en France, on est au même niveau que le Bangladesh, quand même. Il faut quand même se rendre compte de ça. Enfin, c'est pas acceptable dans un pays qui n'a jamais été aussi riche que le nôtre.
Alors, il y a aussi un phénomène, hein, on veut se calquer un petit peu sur le modèle européen pour le gouvernement français, hein, c'est un peu le choix de Macron, on dit la moyenne d'âge de départ à la retraite dans l'Europe, c'est 67 ans, donc qu'est-ce qu'il en est du futur de la réforme des retraites? Parce que là, on parle de repousser l'âge légal de la retraite, de départ à la retraite à 64 ans, mais dans les effets, effectivement, c'est bien plus tard pour la plupart des gens qu'on part à la retraite. Et donc, vous croyez qu'on va arriver petit à petit à un départ légal de l'âge de départ à la retraite, excusez-moi, c'est pas facile à dire tout ça, à 67 ans?
Bah, de toute façon, enfin, à mon avis, c'est leur but à la fin, quoi. Il y a aussi les directives européennes. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est l'Europe qui pousse Macron et puis la France à faire, ou est-ce que Macron se sert de prétexte de l'Europe pour faire ce qu'il a envie de faire aussi, parce que de toute façon, les deux sont libéraux, donc... mais après, c'est une question de rapport de force. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que concrètement, il y a un rapport de force entre le nombre de personnes qu'il va y avoir dans la rue et le gouvernement. Et celui qui va gagner, ça va être le plus nombreux nombre, parce que de toute façon, on est plus nombreux. Ça, c'est pas discutable aujourd'hui. On voit les gens dans la rue. Puis je pense qu'on va le voir cet après-midi. Mais pour moi, c'est vraiment juste une question de rapport de force. Et effectivement, si on laisse faire, eh ben, eux, ils passeront toutes leurs lois, comme ils l'ont toujours fait. Et de toute façon, même quand on n'est pas d'accord, ils font un coup de 49-3. Donc pour moi, je veux remettre ça, rapport de force. Et puis c'est aux gens d'essayer, ceux qui n'ont encore jamais fait. C'est aussi dur de faire grève. Moi, je vois, personnellement, dans mon métier, il y a quand même des syndicats qui sont très forts. On est soudés. Il y a beaucoup d'écoles qui ferment. C'est beaucoup plus facile pour nous, peut-être, de pouvoir faire grève. Il y a comme je le disais tout à l'heure, dans l'artisanat, quand on est dans une petite entreprise, aller faire grève alors qu'on sait très bien que ça embête les collègues, c'est peut-être difficile pour le patron, va peut-être mal vous voir, etc. Donc c'est difficile, mais aujourd'hui on se rend compte que on est très nombreux, donc ça, c'est ça qui doit nous motiver. Et si on est nombreux, ils pourront rien faire d'autre. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur tout à l'heure, même les Républicains en ce moment sont en train d'hésiter un petit peu sur ce qu'ils pourraient bien voter pour cette réforme, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que, y compris dans les zones rurales, d'ailleurs chez nous, on a un député républicain aussi, les Républicains, c'était quand même dans leur programme aussi d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc c'est leur but, c'est leur souhait.
Oui. N'est-ce pas là un coup de com' alors?
C'est un coup de com' évidemment, mais c'est pas juste un coup de com', c'est le rapport de force. Ils se rendent compte que dans la rue, la majorité des gens, y compris sans doute des gens qui ont voté pour lui, parce qu'on n'est pas obligé d'être... Je pense que, de toute façon, on l'a dit, la majorité des gens sont contre cette réforme-là. Eh bien, si son électorat, il se rend compte qu'il est dans la rue contre cette réforme, eh bien, il change d'avis. Enfin, il change d'avis, en tout cas, le but de... On veut aussi se refaire... Moi, je pense que les politiques ont aussi peur de ça, et si on est nombreux, on peut y compris faire changer, pas la personne, ni leurs idéologies politiques, ni ce qu'ils voteront peut-être à l'Assemblée. Peut-être qu'ils seront absents pour éviter de montrer ce qu'ils pensent vraiment de cette réforme. Mais pour moi, c'est la preuve que ça sert à quelque chose d'aller dans la rue et que ça marche.
Oui.
Qu'aujourd'hui, dans les Républicains, ils sont hésitants, ils ont peur. Et ils ont peur parce que l'électorat aussi est... c'est nous, c'est vous, c'est ceux qui écoutent là, qui sont peut-être dans leur voiture, qui sont chez eux. Vous allez dans la rue, on vous écoute. Mais ça, faut en avoir conscience. C'est vrai que quand on est en manifestation, c'est tellement galvanisant. On se dit, punaise, il y a beaucoup de gens qui nous entourent. L'autre fois à Cahors, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. J'avais fait quelques manifs avant pour le climat. Et là, le monde qu'il y avait, c'était fou. Et on se dit, mais en fait, ça marche, ça fonctionne.
Mais alors, comment faire plier le gouvernement ?
Il y a plusieurs attaques. Donc, il y aura le travail des parlementaires, là, qui va être... je parle des parlementaires de la NUPES, pour le coup, pas uniquement des parlementaires de la France insoumise, qui ont déposé de nombreux amendements pour faire d'autres propositions aussi, et pour pousser le gouvernement dans le débat. Et plus le gouvernement explique sa réforme, plus elle est impopulaire, et plus nous, on présente nos arguments, plus la réforme est impopulaire. Donc il y a cette bataille parlementaire qui va s'engager, effectivement, avec un gouvernement de plus en plus fébrile, parce qu'il y a des LR qui commencent à flancher un peu. Il y a même des macronistes au sein de la majorité. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou sur le départ sur 64 ans ou sur la forme aussi qui est opérée. Donc il peut y avoir un mouvement là. Et ce mouvement-là, il doit être bien tenu, bien entendu, soutenu par une mobilisation sociale. Et c'est ça qui portera. Le gouvernement, il n'est pas majoritaire dans l'Assemblée, il le sait. La base sociale n'est pas là pour faire passer la réforme, en fait. Et du coup, on a depuis bien longtemps un front syndical uni. Tous les syndicats sont unis. On a ce nouvel objet politique des formations de gauche qui sont unies au sein de la NUPES. C'est voilà, ça fait longtemps qu'on a vu ça. Oui. Et on a voilà, 93% des actifs qui sont contre cette réforme. Donc tous les éléments sont là, la mobilisation est là, les gens répondent bien. Plus les gens répondront, plus on emmènera du monde avec nous. Et c'est clairement ça qui fera la différence. Si on est mobilisé, si on apporte d'autres propositions, chacun dans son secteur, hein, que ce soit citoyen qui va manifester, qui fait grève, syndicat, parti politique, eh ben on peut effectivement faire plier le gouvernement. Et il faut le faire plier. Parce que si on ne fait pas plier là-dessus, je pense qu'après, ils vont pouvoir se déchaîner assez allègrement.
Et puis, excusez-moi, je me permets, je crois aussi qu'après, c'est à nous de proposer des débouchés politiques. C'est-à-dire que là, dans l'immédiat, concrètement, c'est la manifestation, c'est la grève. Parce que la manifestation, c'est ça qui parle à la télévision. Là, en bas des records de personnes dans la rue, c'est de ça dont on parle. Ce qui embête, ce qui permet de faire que le gouvernement va céder, c'est la grève.
Oui, ça, parce que, c'est vraiment une voilà, pression syndicale.
C'est la grève, c'est la pression. Les syndicats sont tous unis. Nous, on est là pour y être aussi. D'ailleurs, moi aussi, je suis syndiqué. Hein. Je veux dire, je fais partie de la France Insoumise et c'est là j'irai dans la rue en tant que France Insoumise, mais je suis aussi syndiqué. Bon, tout ça, c'est très fort. Et puis après, ben, nous, il y aura la débouchée politique. C'est-à-dire qu'une fois que le gouvernement aura cédé, parce que avec tout ce qui se passe, les Républicains, y compris dans leur propre camp, bon, moi, je pense qu'on va gagner. Mais pour ça, il faut juste continuer comme on le fait, quoi. C'est bon, voilà. Et puis après, à nous, comme disait Elsa, on a des propositions, des parlementaires. Il y a un programme sur lequel, quand même, on s'est battu pendant les élections législatives, pendant les élections présidentielles et pour toutes les élections à venir. Et puis après, ça, ce sera à nous de montrer qu'en fait, toutes les revendications qu'il y a dans la rue, là, concrètement, ben, c'est notre programme. Alors après, il y aura toujours des petites divergences sur le comment, du pourquoi. Mais toute la NUPES, déjà, est unie là-dessus. Il n'y a pas débat, on est tous d'accord. Ce qui ne m'étonne absolument pas certaines personnes, de toute façon, voilà. Mais donc, il y a deux choses. Il y a le combat dans la rue et puis le combat politique aussi en parallèle. Et je pense que les deux, c'est les deux ensemble qui vont faire qu'à la fin, on va gagner, quoi.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif. Alors, je ne sais plus dans quelle circonscription c'est, mais il y a eu une élection législative partielle qui a opposé le député sortant, qui est macroniste, à un candidat NUPES-LFI. Mmh. Et à l'issue des élections législatives, c'est le candidat NUPES-LFI qui rejoint les bancs de l'Assemblée.
D'accord.
Voilà. Donc je pense qu'il y a un changement, voilà, en 6 mois, quoi. et bon, on peut dire que c'est anecdotique, mais je pense que ce qui se passe en ce moment en termes de réforme des retraites, de l'assurance chômage, etc., n'est pas pour rien. Parce que réussir à mobiliser des gens sur des élections partielles pour réussir à faire passer le candidat NUPES-LFI, c'est que ça bouge. Et on a vu aussi à Paris la marche à l'initiative des organisations de la jeunesse. Quand la jeunesse commence à sortir dans la rue, quand on a eu les gilets jaunes, que les gens sont quand même aux abois au quotidien, il faut bien le dire.
Et même certains syndicats de police qui ont revendiqué aussi.
J'irai pas manifester sous leur drapeau.
Mais moi non plus. Non,
mais voilà, mais il y a quand même
un front uni. Le dire eux aussi.
Parce que les gens, ils veulent pas de cette société-là, où on va s'user au boulot pour qu'il y ait juste quelques personnes qui s'en mettent encore plus dans les poches. C'est injuste. C'est à l'inverse du progrès social. Comme le disait Samuel, le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail. Si on gagne en productivité pour pas réduire le temps de travail, à quoi ça sert? Et on a un impératif écologique aussi qui nous amène à ça. Et on a les moyens de le faire. Donc, je veux dire, qui peut sciemment se dire « Ah oui, super, je suis cassé, je suis en inaptitude ». C'est quand même un quart des plus de 60 ans qui sont hors retraite, hors emploi, parce qu'ils sont en chômage ou en aptitude ou au RSA. Les plus de 55 ans, c'est presque la moitié qui n'ont pas d'emploi. Je veux dire, les gens, ils ont juste les yeux ouverts, ils regardent ce qui se passe. Donc, effectivement, ça fait un front large. Alors, ce front large, j'espère qu'on va le voir s'élargir encore, la mobilisation qui va prendre peut-être encore d'autres formes que la grève. On ne sait pas, hein, les gilets jaunes, on ne les a pas vus venir. Hein, personne n'a pu le prédire et on sait qu'en ce moment...
Mais ils ont peur, le gouvernement a peur d'un mouvement de ce type.
Voilà, hein. C'est attention, les renseignements territoriaux ont informé le gouvernement.
Comment ils ont dit ça, gilet jaunisation du mouvement.
Mais parce que les gilets jaunes portent ce que les gens portent depuis toujours, simplement le droit à vivre dignement et en bonne santé.
Oui.
C'est tout, enfin je veux dire, c'est pas...
Rappelons, le programme LFI par rapport à la retraite en fait, hein, dans les grandes lignes justement pour pouvoir vieillir en bonne santé. Si vous voulez bien me rappeler un petit peu, en-delà donc de l'âge de départ à 60 ans, il y a quand même un changement sur le nombre d'heures à la semaine. Vous proposez un peu moins d'heures, un peu plus de congés payés.
Oui, il y avait la sixième semaine de congés payés.
Le passage de la semaine à 32 heures.
Oui, oui. Bah, c'est, comme disait Elsa, c'est un petit peu le sens de l'histoire aussi. C'est-à-dire que la productivité a augmenté parce que les machines ont fait qu'on produit de plus en plus. Et donc tout ça avait quand même pour objectif de faire baisser le temps de travail. Si on peut produire une même quantité avec... On a plus d'énergie qu'avant. Bon, alors à voir dans l'avenir comment ça se passera ça aussi. Mais en attendant, là, factuellement, pour le moment aujourd'hui, on produit plus qu'avant. Et on nous dit dans le même temps, on doit travailler plus. Et puis en plus, dans un monde où le travail perd de son sens. Encore une fois, moi, j'adore mon boulot. Je m'use pour ça. Vraiment, je me sens utile. Mais c'est David Graeber avec Bullshit Jobs qui avait théorisé un peu là, qu'une quantité de personnes quand même conséquentes ont du mal avec le sens qu'on leur travaille parce que il y a plein de choses qu'ils aimeraient faire, mais dans leur travail, on leur demande de faire des choses qui sont parfois même mauvaises pour la société selon eux. Parfois, c'est aliénant. Voilà, ça dépend aussi du travail qu'on fait, quoi. Et donc nous, on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut aimer notre travail. D'ailleurs, on l'aime, mais pour que ça ait du sens, eh ben, il faut pouvoir bien le faire. Pour pouvoir bien le faire, il faut être aussi reposé. Il faut pouvoir aussi avoir une vie à côté, avoir du temps pour soi, pour voir les amis, pour la culture, pour les loisirs, pour le repos. Aussi quoi, et puis pour les retraités, je rappelle quand même que la plupart des retraités, enfin dans toutes les associations, c'est quand même eux qui les tiennent, alors pas que évidemment, mais faut du temps, et voilà. Donc nous, il y avait la sixième semaine de congés payés, il y avait la retraite à 60 ans, la hausse des salaires, la hausse du SMIC pour aussi augmenter les cotisations. Voilà, c'est une politique, je vais te laisser développer Elsa, mais voilà, pour nous c'est le sens de l'histoire quoi.
Alors, je ne sais pas ce que je dois développer, parce que j'ai dit pas mal de choses quand même.
Ah, oui.
Il me semble que c'est bien, et c'est surtout que la réforme, parce que sous prétexte de donner une retraite moins indigne à certaines personnes, il faudrait travailler plus. C'est le discours, alors là, pour lequel se rejoint la Macronie et la droite. Hein, nous, on dit qu'avec cette réforme-là, et on la finance, c'est pas des intentions en l'air. C'est-à-dire qu'on a les financements qui sont derrière. On augmente aussi le niveau des retraites qui sont aujourd'hui indignes. Le nombre de personnes qu'on croise qui ont des retraites à 700, 900 euros, qui ne sont pas propriétaires de leur logement, quand on a passé une vie entière à travailler, c'est pas possible. Et donc, c'est aussi des retraites, comme je disais tout à l'heure, carrière complète, minimum le SMIC à 1600 euros, le minimum vieillesse revalorisé et personne en dessous du seuil de pauvreté. C'est juste des questions de dignité humaine. C'est...
Alors ça, j'ai pas l'impression que ça préoccupe beaucoup Elisabeth Borne.
Ben, disons qu'après, ça va pas servir tout à fait les mêmes intérêts.
C'est ça.
C'est clair.
C'est ça, il y a vraiment une question d'intérêt.
Parce que cette réforme-là, en fait, elle se fait pas parce que les caisses sont vides. Parce qu'en plus, économiquement, enfin, écoutez tous les économistes, elle ne se justifie pas. C'est juste qu'on fait cette réforme-là pour pouvoir continuer à vider les caisses en faisant des cadeaux à certains.
Oui, parce que ça faut... Bon, je sais pas si c'est la peine d'insister là-dessus. De toute façon, tout le monde est déjà contre cette réforme. Mais le soi-disant déficit qu'il y aurait, là, selon un des quatre scénarios du Conseil d'orientation des retraites, c'est que l'État financerait moins les retraites, donc on creuserait le trou. Bon, bah, forcément, si on finance moins, voilà. Tout ça, c'est une question d'argent, et là, c'est assez binaire, selon moi. Hein. Là, c'est... Il y a de l'argent. À qui on le prend, ou pas ? Est-ce qu'on arrête de le prendre ? Et si on le prend, à qui ? Et puis, où est-ce qu'on le met ? Eux, ils font le choix d'enlever... Bah, tout ce qui est pour les gens, pour les services publics, là, ça va être la réforme assurance chômage, ça va être les retraites, et puis double peine, hein, on est âgé entre 55 ans, 60 et plus, du coup. Bah, si jamais on n'a pas de boulot, on touche pas la retraite, et en même temps, bah, nos aides, elles baissent. Et puis parallèlement, les aides... Moi, je veux insister sur le fait que le gouvernement finance les très grandes entreprises, et je dis bien les très grandes, parce que souvent, je vais dire le crédit impôt compétitivité emploi, quand j'en parle des fois à des amis de droite, me disent « Oui, mais il y a des entreprises qui ont besoin de ces aides. » Oui, mais sauf que allez demander à votre boulanger s'il touche ces aides-là. Alors, il y a des aides, mais c'est souvent les très gros. Et pour financer ça, il faut faire des économies. Et c'est là que le gouvernement dit « On les fait où ?» Les retraites, la sécu, toutes ces choses-là. Quoi. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. Le gouvernement donne des aides monstrueuses
au
CAC 40. Et après, on creuse le déficit public. Et après, on va dire, il faut économiser. Bon, nous, on propose l'inverse. On dit, on va aller taxer au lieu de leur donner. Et puis après, on va boucher ce trou et puis même faire mieux. Voilà. Et notamment, ça, c'est un peu plus large, mais on proposait sur les impôts de faire non plus 5 tranches, mais plus de tranches. C'est-à-dire que ça serait un peu plus équitable. Quand on touche beaucoup, 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 on payera beaucoup plus. Et puis, quand on est un peu au milieu... c'est pas normal que pour nous il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus équitable,
proportionnel.
Oui. Voilà, merci, j'avais besoin du mot. Voilà, on proposait 14 tranches au lieu de 5.
Ah oui, ce qui complique un peu plus la chose. Oui et non, en fait, mais ce qui la rend un peu plus juste, en tout cas.
Non, parce que si on enlève quelques niches fiscales, ça facilite le travail. Hein. Ça fait moins de paperasse.
C'est vrai.
Et après, ce qui est intéressant, c'est quand même sur cette réforme, on entend le MEDEF, hein, en général, quand on entend le patronat, mais c'est quand même... le MEDEF est représentatif que de certains patrons, et j'entendais l'autre jour un représentant du cercle des entrepreneurs, donc plutôt TPE, PME, qui disaient qu'eux étaient contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite et contre l'augmentation du temps de travail dans la vie. Parce qu'eux aussi ont besoin de salariés productifs, donc reposés, donc en bonne santé, qui ont encore envie d'être au boulot, etc. Et qu'eux aussi sont pour le progrès. C'est le grand discours du gouvernement, c'est on met les patrons, hop, on met tout le monde dans le même sac, comme ça, les autres, ah, regardez, c'est des gros méchants, ils sont contre les patrons. Mm-hmm. Mais non, on voit bien que aussi dans le secteur privé, et il y a d'ailleurs beaucoup de salariés du secteur privé qui sont en grève, et que même les dirigeants d'entreprises ne trouvent pas de légitimité, d'utilité à cette réforme des retraites, et au contraire, savent bien que des salariés démotivés, des salariés en inaptitude, etc., ça finit par coûter plus cher, en plus de dégrader... simplement ce qu'on veut porter dans le travail.
Il y a même des maires qui portent aussi cette grève avec toute leur équipe municipale. C'est porté vraiment par énormément de couches de la société.
Oui, je vais tâcher, puisque je suis aussi conseillère municipale à Cahors, de proposer un vœu.
D'accord.
Contre la réforme des retraites. Je pense qu'à une grande majorité dans ce conseil municipal, on peut s'entendre là-dessus.
Oui, ça doit. Espérons-le. Sinon, ça voudrait dire que vraiment, ça vire de bord.
Ouais. De toute façon, vu le monde qu'il y avait dans la rue l'autre jour à Cahors, il y a intérêt aussi à suivre un peu. Hein. Et puis, je pense que...
Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que là, en 6 mois de Macronie, depuis sa réélection, il y a quand même, donc, comme on l'a dit rapidement, on a eu 10-49-3. Le système social français est en train de sombrer, on peut dire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qui va rester maintenant dans 4 ans et demi? Il nous reste encore 4 ans et demi à tenir?
Non, on aura une solution d'ici là, hein, concrètement. Non, mais c'est important parce que cette bataille-là, elle arrive en début de mandat. Elle montre bien toute la fragilité du gouvernement. La complexité d'être dans une assemblée où il n'y a pas de majorité comme on a eu pendant 5 ans. Et la bataille qui se mène là, c'est aussi une bataille qui peut-être conduire aussi... à une dissolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une motion de censure qui sera déposée très certainement par l'ensemble de la NUPES. Peut-être d'autres partis vont en déposer aussi. À un moment donné, les choses vont bouger. Je ne vois pas comment le pays peut rester gouvernable en toute quiétude, dans le respect des citoyens, dans ces situations-là.
Mais est-ce que le gouvernement va laisser le temps à la NUPES de pouvoir la déposer, cette motion de censure, vu comment il a décidé d'accélérer l'étude des textes et de vite propulser ce texte au Sénat?
Oui, il essaye de la passer en force.
Oui, c'est sûr. Là, ils ont choisi le taux de débat contraint. Ils ont appris la leçon. Hein, l'obstruction parlementaire des parlementaires de LFI avant le Covid, ils étaient que 17. Ils y ont passé des heures et ils finissaient par en pleurer. Cette bataille-là parlementaire, qui est une bataille institutionnelle, hein, qui respecte les institutions, là, elle peut pas être possible parce qu'il y a ce débat en temps contraint. Par contre, s'il y a un 49-3, bien entendu, il y aura une motion de censure qui sera déposée.
Enfin,
on peut pas gouverner pendant 5 ans à coup de 49-3. C'est là la 5e République, déjà qu'on savait qu'elle était à bout de souffle, elle montre vraiment les derniers écueils pour ceux qui en doutaient encore. Quoi.
Bon, ben voilà, tout est dit, je crois. On pourrait en dire en parler beaucoup, hein, sinon encore... Ouais.
On pourrait en parler beaucoup. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'un autre monde est encore possible. Voilà, parce qu'effectivement, 5 ans comme ça, ça paraît compliqué et que c'est vraiment la mobilisation de chacun, chacune. Comme il peut, là où il peut, en s'organisant. Il y a aussi des caisses de grève. Donc voilà, ceux qui peuvent soutenir les caisses de grève pour permettre à ceux qui ont un peu moins de tenir. Et que cette mobilisation sociale, elle est essentielle. Elle prendra peut-être d'autres formes au fur et à mesure du mouvement. Mais en tout cas, elle peut vraiment faire changer la donne.
Et puis, moi, j'appelle aussi encore une fois à la grève. On rappelle que c'est quand même difficile de la faire. Mais une fois que vous la faites... Le patron, déjà, peut-être qu'il est contre aussi cette réforme. Faut pas... Parce que souvent, je pense au privé, il y a des tabous. Quoi. La politique, on n'a pas forcément envie de trop se lancer là-dedans. On a un boulot, on a un salaire, il faut qu'on rentre à la maison le soir. On ne veut pas avoir de problème. Mais une fois qu'on a fait grève, il n'y a rien à dire. Hein.
Et qu'on a eu gain de cause.
Et puis,
il y a quand même le soutien d'énormément de gens. Je pense qu'il faut avoir conscience que ça devrait faire moins peur aujourd'hui de la faire, cette grève, parce que une écrasante majorité des gens est pour soutien à la grève, soutien le mouvement et contre cette réforme. Peut-être aussi, dites-vous, moi là je parle à tous ceux qui travaillent, quoi, mais dans votre boîte aussi, vous n'êtes pas les seuls, parce que si dans le pays il y a 70, 80, 90% qui sont contre, je ne sais pas, dans tous les cas une majorité écrasante de personnes qui sont contre cette réforme, vous n'êtes pas les seuls. Et si vous en parlez un petit peu, ne serait-ce que tâter le terrain autour de vous au boulot, vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. Et c'est quand on se sent seul qu'on n'ose pas la faire, la grève. Mais vous n'êtes pas seul. Y compris dans votre boulot, vous pouvez être convaincu qu'il y en a qui ne pensent pas moins que vous. C'est la première personne qui osera faire le premier pas de lancer le sujet ou d'éventuellement, « la grève, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis après, ça va, ces réactions enchaînent, c'est domino. Voilà, donc moi, mais je sais bien que c'est difficile encore, mais c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et puis après, le patron, encore une fois, peut-être qu'il est aussi pour cette grève. Enfin, la grève, je sais pas, mais qu'il soutiendra peut-être. Et puis, une fois que vous lui dites, de toute façon, il a rien à dire. Voilà, c'est un droit constitutionnel. On fait grève, on n'est pas payé. Je rappelle aussi, il y a toujours des gens qui, rares, mais quand même qui s'imaginent ça sur les réseaux sociaux parfois. Bon, on n'est pas payé quand on fait grève. Bon, voilà. Hein. Et puis après, quand on rentre chez soi le soir aussi, il y a quand même un sentiment de fierté de se dire on l'a fait, quoi. Et voilà, moi je vous encourage à la faire, et même si c'est dur, et on vous soutient, voilà.
Il y a aux jeunes qui, un peu défaitistes face à l'avenir, qui n'osent pas, qui ne pensent même pas à se mobiliser, qui pensent, mais la retraite de toute façon, je ne l'aurai pas. Combien de fois ça n'existera plus quand j'aurai l'âge Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui sont un peu en perte d'espoir?
Moi ça m'arrive, hein, des fois, quoi. Moi, par rapport au climat, quand Macron a été élu... J'ai lu pas mal en ce moment là, tous les gens qui vivent ici, qui nous parlent de un peu science sur comment sera le climat dans quelques décennies, en 2100, bon, même avant. Bon, donc des fois on est défaitiste, mais de toute façon, là pourquoi moi j'y crois, mais parce que dans la rue on est nombreux. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Encore une fois, c'est le sentiment de solitude. Ruffin parle d'indifférence là-dessus, mais c'est l'indifférence, mais c'est le sentiment de solitude. Mais vous n'êtes pas seul. Et quand on se rend compte qu'autour de nous on n'est pas seul, c'est super motivant. Déjà, ça aide à tenir, ça donne envie de se battre, et on y croit. Et moi, j'y crois là parce que... Et d'ailleurs, ça marche. On en parlait tout à l'heure avec les députés républicains, certains députés républicains et même macronistes qui commencent à reculer. Donc ça veut bien dire que ça marche, mais pour ça, il faut être nombreux, il faut y croire.
Il faut être déterminé.
Il faut être déterminé, mais déterminé, c'est... On ne peut pas dire à quelqu'un, soit déterminé comme ça. Mais faut, à partir du moment où on a conscience qu'on n'est pas tout seul, que la plupart des gens vous soutiennent, et puis avoir conscience qu'on a le droit aussi d'avoir des revendications dans la vie. On n'est pas juste là pour subir, quoi. Voilà, vous avez un travail, vous méritez ce que vous gagnez, vous méritez la retraite, vous faites du bon travail, vous avez des droits. Voilà, et faut assumer ça, qu'on a des droits aussi, il ne faut juste pas se laisser écraser.
C'est important.
Voilà. Et puis aux jeunes, on peut rappeler qu'il y a eu quand même une marche rassemblant 150 000 personnes à l'initiative des organisations jeunesse, donc la jeunesse... désabusés ou effrayés ou tétanisés. Moi, je trouve que la jeunesse aujourd'hui est très, très politisée, que ce soit pour les questions climatiques ou de justice sociale. Et de l'avoir vu descendre dans la rue une fois à son initiative, réunir autant de monde, je trouve ça très encourageant. C'est-à-dire qu'on a les syndicats, les salariés unis, on a une alternative politique qui est prête à gouverner, ce qui est quand même pas rien, via la NUPES notamment, et on a les jeunes qui se mettent en mouvement. Je pense que le gouvernement a sérieusement de quoi trembler et on va continuer à le faire trembler.
Et puis les jeunes, quand ils s'y mettent, en général, ça se voit. Non, mais voilà. Ayez confiance, les jeunes, et n'hésitez pas à vous y mettre. Et vous êtes légitimes. Voilà, moi, c'est ça qu'il faut leur dire. Vous êtes légitimes.
C'est votre avenir.
On n'a pas forcément les connaissances dans tout. Moi-même, je sens mes limites parfois sur certains sujets.
Quand on est vieux, tu sais.
Quand on est vieux, je dis ça pour les rassurer, parce que ce n'est pas parce qu'on est au lycée, ce n'est pas parce qu'on commence les études que nos revendications ne sont pas légitimes. Elles sont légitimes. Et puis, on apprend en faisant, et puis on se bat. Et puis, ça fonctionne comme ça, de toute façon. Voilà, c'est l'apprentissage de la vie. Mais on est jeune, on est légitime, on a des droits. Et quand ils bougent dans la rue, toutes les marches climat où j'habitais en région parisienne avant, c'était les jeunes, hein. Pas que. Mais enfin, et puis comme dit Elsa, là, on est monté à Paris l'autre fois pour la manif des jeunes. C'était les jeunes à l'initiative. Bon, alors après, évidemment, il n'y a pas que des jeunes. Tant mieux.
Heureusement.
Tant mieux. Mais les jeunes, quand vous vous y mettez, ça se voit. Et ça les embête. Alors, n'hésitez pas.
Et puis enfin, il y a aussi dans tout ce monde-là, il y a les médias. Hein. N'oublions pas de parler aussi du rôle des médias à travers ce monde des grèves et ces manifestations. Et je dirais juste, rappelons que les grèves, c'est vous qui les faites, c'est nous qui en vivons. Voilà, n'oublions pas ça aussi. Et je trouve ça assez important de le rappeler. Donc ça, le jeu des médias là-dedans aussi, qui sert telle personne ou telle personne. Ah, enfin, sûr, voilà. Hein. C'est mon petit mot de la fin sur les gros médias qui vivent de
on
nos mouvements sociaux.
C'est ça.
Alors, on rappelle pour aujourd'hui la manifestation. Donc, aujourd'hui, rendez-vous à 14h tout à l'heure à Cahors.
C'est à la place Mitterrand.
Place Mitterrand départ, 14h30 à Figeac, place Champollion,
voilà.
C'est ça.
Et il y a déjà eu une grosse mobilisation ce matin à Bière-sur-Serre où il y avait déjà beaucoup de monde.
Tu sais à peu près combien de monde il y avait
Je crois qu'on était pas loin des 1000.
Pour Bière, c'est énorme. Donc ça promet une après-midi.
Mais après, à vérifier la
fiabilité. Oui, en moyenne. De toute façon, pareil, je parlais des médias. Quand on voit le comptage des manifestants dans les médias, entre les chiffres selon la police et les chiffres selon les syndicats.
Si on prend le cabinet macroniste occurrence, alors là, vu qu'il se trompe de rue, c'est encore plus compliqué.
Très bien. Quelque chose à rajouter, Elsa et Samuel?
Ben non, on va aller marcher et puis on va
aller
continuer,
à la marche, ouais.
On va tenir, on va appeler aux mobilisations et voilà. Et un autre demain est possible. On a toutes les cartes en main. Donc,
venez avec votre bonne humeur.
C'est ça.
À nous de faire maintenant.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup à vous deux.
Merci
beaucoup. Merci.